Trezoros.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons en ce vendredi 23 mai sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Anna Dossandre. Bonjour Anna.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons présenter son recueil de nouvelles intitulé Le parapluie rouge et publié aux éditions Inuit. Mais comme à l'accoutumée, avant d'en parler ensemble, votre page info. À noter deux nouvelles librairies à Toulouse. Ombre Blanche Cinéma a ouvert ses portes le 3 mai dernier au 33 rue Gambetta à Toulouse. Et puis Ombre Blanche Langues étrangères s'est ouverte le 13 mai au 3 rue Mirepoix à Toulouse également. Donc deux nouvelles librairies à découvrir dans notre ville rose. Ensuite, demain samedi 24 mai après-midi à la librairie Siloé, située place de la Trinité à Toulouse, une rencontre avec Guy Motte, qui est un auteur de notre région, et son quatrième livre intitulé « Sous la lune du crocodile ». C'est un détournement, c'est un livre avec un détournement d'expressions populaires et une succession de jeux de mots, donc à découvrir demain après-midi, place de la Trinité. Et puis je termine les infos avec celle-ci, mercredi 4 juin à 20h30, à la Boulanguette, boulevard Eugène Montel à Tournefeuille. Le café littéraire de Tournefeuille, animé par Paul Claudel, vous invite à découvrir les mangas. Alors c'est une écriture, une littérature un petit peu méconnue par certaines de nos générations, donc n'hésitez pas à venir découvrir mercredi 4 juin à Tournefeuille.
Page à page, Claire Ambille.
Justement, Anna, vous qui avez été libraire, les mangas, vous en pensez quoi ?
Pas grand-chose parce que j'en lis très peu.
Oui, mais vous en vendiez. Enfin, je veux dire, les gens en achetaient. Enfin, connaissent cette littérature.
Oui, de plus en plus. Ça s'est vraiment bien démocratisé. Oui. Pour la bonne et simple raison que, enfin, manga en japonais, ça veut dire bande dessinée.
Oui, ah, oui. Enfin, voilà. Tout simplement, voilà.
Du manga, c'est de la bande dessinée, tout simplement.
Mais donc japonaise.
Japonaise,
avec
oui.
Des personnages japonais.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Essentiellement, oui.
D'accord. Alors donc, Anna, vous vivez dans le Gers, à Auch.
Oui.
Voilà, au pays des tournesols.
Les tournesols, oui, c'est un pays très jaune.
Très jaune, une belle couleur. Vous avez donc été libraire et puis vous animez des ateliers d'écriture et puis vous êtes conseillère en littérature également.
Oui, c'est ça.
Et puis vous écrivez. Justement, vous aussi, et vous avec une prédilection pour l'art du bref, hein, vous avez écrit deux recueils de poésie que je vais citer, Un régal d'herbes mouillées et Chemin faisant, et puis également un livre, un album jeunesse plus exactement, Iris et l'escalier.
Oui.
Et aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter le recueil de nouvelles d'Anna Dossandre, intitulé Le parapluie rouge, édité aux éditions Inuit. Alors, c'est un recueil de 5 nouvelles avec une belle couverture bien rouge.
Ma couleur préférée, ça tombe bien.
La mienne aussi, c'est parfait. Et puis avec deux lames du tarot de Marseille, dont l'une est la tempérance, d'ailleurs qu'on retrouvera, qui est un peu un clin d'œil avec la dernière des nouvelles de ce recueil. Et puis une autre lame qu'on voit pas complètement et qui est l'arcane sans nom.
Oui.
Donc tempérance et arcane sans nom sur la couverture de ce recueil, le parapluie rouge. Alors c'est en prélude de ce recueil, il y a aussi quelques phrases de Francesco Pitto, qui est un auteur...
C'est un auteur jeunesse et un poète.
Qui vit en Belgique.
Qui vit en Belgique, tout à fait. et dont j'aime évidemment beaucoup la poésie, sinon j'aurais pu utiliser en exergue de ce recueil.
Tout à fait.
Voilà, et je voulais citer ces quelques vers libres, oui.
Voilà, tiré de Une maison vide dans l'estomac. Et puis alors donc, ce recueil de nouvelles sont des nouvelles qui ont toutes pour point commun en fait de dérouler un fil de vie, souvent chaotique et difficile, mais qui par le hasard des rencontres se teintent d'espoir. Ce sont des nouvelles qui ne sont pas noires.
Tout à fait.
Même oui. Avec des thèmes graves, elles ne sont pas noires.
Oui, parce que je pense que même dans des situations difficiles, avec des contextes... même différents, avec des personnes qui ont des personnalités complexes et qui ne se ressemblent pas forcément, il n'y a pas forcément d'interaction entre les nouvelles. Pour autant, on peut arriver à sortir de situations où on peut changer d'état d'esprit, on peut évoluer ou faire autre chose, même si on a un bagage difficile au départ, et c'est ce que
tout
je voulais
à fait.
Montrer dans ce
et film. Le hasard des rencontres aide aussi.
Ah oui, 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 il y a beaucoup de rencontres clés, effectivement.
Tout à fait, dans chacune de ces 5 nouvelles. Alors, ce sont des nouvelles avec une belle écriture, très imagée, à la fois poétique et percutante, qui m'a personnellement beaucoup plu.
Merci.
J'aime beaucoup votre façon d'écrire. Alors, 5 nouvelles au titre, au joli titre, et des titres singuliers également. Alors, la première s'appelle « Un festin en hiver », la seconde « À la nuit, loin du Montana », la troisième c'est « L'heure dite », la quatrième « Et le jeudi non plus », et la cinquième et dernière c'est « Le parapluie rouge », du même titre que le recueil. Et justement, je vous propose, Anna, de commencer par la dernière, le parapluie rouge, justement.
Faisons cela.
Alors, le parapluie rouge, c'est écrit à la première personne du singulier par une femme,
oui.
Dont on ne connaît pas le nom.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'est la seule qui n'est pas nommément citée dans le recueil.
Je ne suis pas sûre.
Non, il y en a d'autres.
Oui. D'accord. Mais enfin, en tout cas, celle-ci, voilà, n'est pas citée. La ville non plus, hein, les villes ne sont pas toutes forcément citées.
Elles sont toutes
citées.
Anonymées par... par une lettre de l'alphabet, oui.
Sauf pour l'heure dite, où c'est à Toulouse.
Oui, voilà, et qui est là par contre...
Même Ramonville, ouais. On parle de Ramonville,
tout à fait,
du canal du Midi, ouais. On va le voir tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est écrit par une femme, et dont on découvre peu à peu à la lecture donc, l'histoire douloureuse. Et alors, il y a des jolies phrases qui m'ont plu et que j'ai envie de citer, dont une par exemple, celle-ci, « Dommage, je me plaisais bien en sourde », parler sans ouvrir la bouche, c'est le langage des entendants qui croyaient n'avoir plus rien à dire. Parce qu'elle va séjourner chez une avocate, cette femme.
Oui, qui va clairement la prendre en charge,
voilà.
Lui offrir le gîte et le couvert pendant
quelques temps.
Ouais.
Et puis encore une autre phrase aussi. La pluie, bruyante, vulgaire et glacée, tombe depuis un quart d'heure avec brutalité. Des essuie-glaces comme des métronomes disciplinent le rythme de l'averse. J'aime bien ce côté très imagé des choses que vous avez dans votre écriture.
Oui. Oui, parce que, comme je dis souvent, je ne suis pas spécialement visuelle, je suis plutôt auditive. Or, les images, forcément...
Ah oui, effectivement, ça fait penser à la... Oui, il y a une certaine
longtemps.
Musicalité, effectivement.
Oui, oui, donc quand j'écris, je m'appuie beaucoup sur le rythme, d'une part, et d'autre part, je visualise à partir de ce que j'entends, plus que par rapport à ce que je regarde.
D'accord.
Et la pluie, enfin, pour moi, c'est quelque chose de très bruyant, très auditif. Et donc, c'est à partir du bruit ou du rythme des gouttes
et
qui tombent.
Voilà,
que je
et puis des essuie-glaces comme des métronomes, voilà, avec le mouvement. Alors, c'est donc l'histoire d'une femme que l'on devine meurtrie et qui est arrivée donc dans une ville non citée et qui boit un verre dans un bar où elle rencontre, enfin, où elle remarque et elle observe une vieille dame. Alors, elle dit au sujet de la vieille dame, c'est une vieille tordue comme un clou mal frappé. Des sillons la parcheminent profondément, mais son regard, nom de Dieu, son regard est mauve. Alors avoir un regard mauve, améthyste, c'est quand même particulier. Elle est particulière, cette vieille dame. Oui. Et elle dit aussi, et son sourire tape dans ma carcasse et réchauffe tout ce qui en moi avait gelé depuis la mort de mon fils. Et c'est là qu'on apprend, enfin qu'on découvre qu'elle a perdu son bébé, Andy. Voilà, et qu'on va découvrir peu à peu donc, le fil de sa vie. Et alors cette femme continue à regarder cette vieille dame. Et elle parle de ses cheveux blancs, de cette masse de cheveux blancs. Et cette masse de cheveux, pareille à une île flottante, posée sur une jatte de crème anglaise, me l'a fait aimer aussi fort que Dame Tartine dans son palais de beurre frais. Qui ne connaît pas Dame Tartine ?
Oui, je pense que tout le monde le
connaît. Ah, ben bah, oui. C'est, ouais, ouais, voilà, j'aime cette image de l'île flottante. Et puis, donc, pour la narratrice, donc après, donc, dans ce bar, la narratrice sort son jeu de tarot, justement, de sa poche. Et donc, à un moment, il est dit, la lame de la tempérance lui a fait changer le vin en eau. C'est là qu'apparaît la carte de la tempérance qui est sur la couverture de ce livre. Et puis la tempérance, voilà, parce qu'on apprend que c'est les événements de sa vie ont fait qu'elle a eu une période de boisson après la mort de son bébé. Donc des choses difficiles. Et donc, elle évoque aussi le parapluie rouge. Donc, le parapluie rouge, c'est un tableau de d'Avigdor Arikna. Arica.
Avigdor Arica, oui, il n'est pas très facile à prononcer.
Voilà, qui vous plaît beaucoup. Ce tableau vous plaît beaucoup. Oui, et donc, vous l'avez décrit d'ailleurs dans cette nouvelle, parce qu'elle en parle, la narratrice. Un parapluie fermé, et il y a tous les possibles avec ce parapluie fermé dans un vestibule d'entrée, dans un vestibule de maison.
Oui, c'est un tableau qui me plaît. Alors, ce n'est pas mon tableau préféré, mais il me plaît particulièrement dans la mesure où tout est possible avec ce tableau. En fait, il représente un vestibule chez un particulier, dans la maison d'un particulier. Et donc, contre la porte d'entrée, contre le champ de branle sur la gauche, il est posé ce parapluie rouge fermé. Et on peut se poser toutes les questions que l'on souhaite, se demander s'il appartient à un visiteur qui vient rendre visite à l'hôte ou à l'hôtesse des lieux. Est-ce que c'est le propriétaire de la maison à qui il appartient? Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il est rentré?
Voilà, oui,
là, c'est tout, imaginer
tout un tas de possibles.
Voilà, il y a tellement de sûr que je voulais m'en servir
de ce parapluie rouge. Oui. Et donc, il a donné le nom aussi non seulement à cette nouvelle dont on parle, mais aussi au recueil de toutes ces nouvelles.
Oui, ça, c'est le choix de mon directeur de collection, Claude Chambard, que je salue.
Et je trouve que c'est un très bon choix.
Je lui dirai,
mais content. Ah oui, mais si nous écoute aussi, vous le lui direz, tout à fait. Je trouve que c'est un très bon choix. Alors, on apprend aussi des détails. Donc, la vieille dame s'appelle Odette. On apprend donc des détails aussi sur la vie de la narratrice, mais dont on gardera ici le secret pour laisser découvrir aux auditeurs et futurs lecteurs la suite de cette nouvelle. Et il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup plu. C'est « Heureusement que tout finit par me lasser et que mon instabilité me tient tiendra toujours lieu de boussole. » C'est la narratrice qui dit ça. Et moi, c'est une phrase qui m'a particulièrement plu.
C'est son mode de fonctionnement principal.
Depuis la mort de son bébé, bien sûr.
Voilà. Ce que je voulais montrer, c'est que des personnes, même ayant des faiblesses ou des handicaps, peuvent s'en servir volontairement ou inconsciemment pour faire autre chose ou pour s'épargner quelque chose. Ça peut être aussi soit une arme défensive, soit une force. Alors, pas toujours, bien sûr, par rapport à des personnes qui sont dotées de qualités de caractère un peu plus intéressantes. C'est sûr que ce sont des personnes qui vont souffrir davantage, perdre davantage de temps. Mais pour autant, elles peuvent arriver à en faire quelque chose. Et c'est ce que je voulais montrer aussi dans cette histoire.
Avec cette phrase aussi.
Voilà.
Et puis on découvre qu'elle a quitté donc une ville du Morbihan, cette femme, et qu'elle a choisi donc d'être dans cette ville là où elle est, où elle nous raconte son histoire, un choix de ville de taille moyenne, avec des citadins, comme elle dit, en petite mort perpétuelle, un greffon à l'oreille et avec une démarche de manchot.
Des consommateurs de base.
Oui, tout à fait. Et puis elle dit aussi une ville où je pouvais éviter la sympathie et son lot de questions indiscrètes. Oui, voilà, avec l'anonymat qui va avec.
Oui, complètement.
Pour être tranquille, pour être protégée de l'inquisition, enfin de la curiosité. Et puis donc peu à peu, ses souvenirs nous éclairent sur sa vie passée. Et puis elle dit j'étais dans l'ici et maintenant, et simultanément au printemps 1982, celui de 1996 et de 2007. Et puis elle dit encore, mais est-ce que je penserai un jour à me pardonner la vie qui me lève encore chaque jour pour manger, uriner et pleurer depuis le troisième, celui de 2007. C'est là qu'on comprend que voilà, celui de le printemps 2007 et celui
était le pire qui a, printemps pour elle. Oui.
Voilà, était le pire. Je crois que voilà, pour une mère, c'est effectivement le pire qu'on peut vivre, effectivement. Et puis donc, voilà. Après, on va pas tout raconter pour laisser donc la surprise. À un moment, le patron du bar là où elle est, eh bien, met Frank Sinatra, voilà. Et puis la narratrice est invitée à la table d'Odette et elle dit encore sur cette vieille dame avec qui elle partage un verre, et le réseau de ses rides m'emporte aux époques qu'elle a connues et qui sont mortes avant moi. Et donc la dernière phrase que je citerai aussi, c'est « Tu étais seule et je m'étais quittée ». C'est une très très belle phrase.
Merci.
J'ai trouvé que voilà, et c'est comme ça que se termine un petit peu cette nouvelle, enfin voilà, on va pas dire comment elle se termine, mais cette phrase, voilà, exprime bien, voilà, j'ai
la rencontre de deux solitudes.
Tout à fait, c'est voilà. Ça. Alors, donc, cette nouvelle, Parapluie rouge, voilà, la dernière de ce recueil. Alors, après, je propose de parler de la première de ce recueil. Oui, on fait pas dans l'ordre. Voilà, la dernière, et maintenant la première, qui s'intitule « Un festin en hiver ». Alors, comme son nom l'indique, l'histoire se passe en hiver, en novembre exactement. D'ailleurs, c'est dit « Le froid fronçait les sourcils et gerçait les peaux ». J'aime bien le froncement de sourcils du froid. Et puis de très belles descriptions de l'hiver avec la neige qui tombe. Alors c'est l'histoire de Clara qui est une jeune femme sans domicile fixe et qui, enfant, voulait juste parler aux arbres et enterrer ses mèches de cheveux dans un pilulier sous des rhubarbes.
Voilà.
Voilà, c'était ce qu'elle voulait faire plus tard. Alors, elle refuse d'ailleurs, actuellement, elle refuse donc d'aller dans des centres, dans des dortoirs collectifs. Et un jour, sa sœur cadette, Esther, lui donne rendez-vous et lui propose une sorte de marché. Elle l'héberge chez elle en échange de la préparation de deux saladiers de kefta, ces boulettes de viande épicée.
Oui, typiquement moyen-orientale.
Tout à fait.
Au Maroc, en Tunisie.
Voilà.
Etc.
Selon la recette de leur père, bien entendu.
Oui.
Alors donc c'est un prétexte bien sûr pour Esther de venir en aide à sa sœur Clara. Et puis on découvre donc que le papa justement est atteint d'un cancer assez avancé et qu'il est hospitalisé. Et puis Clara accepte donc le marché, hein, donc de s'installer chez Esther et de préparer ses deux saladiers de kefta. Et pourquoi on se poser la question, mais en fait c'est parce qu'elle se sait enceinte. Donc elle a un petit être qui grandit en elle et donc oui. Voilà, elle accepte cette proposition. Voilà, et on découvre donc peu à peu la vie de Clara, avec par exemple que c'est son père qui un jour l'a mise à la porte, et puis d'ailleurs elle refuse d'aller le voir à l'hôpital, hein. Elle ne va absolument pas
obstinément,
aller le voir,
oui.
Obstinément. Et puis Clara, avec son fameux appétit et son goût de la cuisine méditerranéenne, et actuellement c'est plutôt, comment dire, voilà, elle dit à un moment, ne pas crever était mon seul appétit.
Oui.
Voilà, c'est la rue, voilà, c'est une forme de vie difficile.
De survie, voilà.
De survie, voilà, on survit. Et puis, donc, on voit aussi les relations très tendues entre les deux sœurs, avec l'altruisme d'Esther qui lui servait à se valoriser aux yeux du père. Hein, c'est ce que dit Clara en parlant de sa sœur. Et puis, cette neige qui ne fait que tomber lui rappelle aussi le matin neigeux où leur mère les a quittés.
Oui.
Voilà, donc ça rappelle aussi plein de choses. Et puis, elle dit aussi sur sa famille, c'était une famille où l'on chassait ou abandonnait, où l'on avançait en jouant à saute-mouton par-dessus les manques et les pertes. C'est fort quand même. Comme, c'est très imagé là aussi,
oui, c'est
mais
très
c'est
imagé,
très
oui.
Fort comme... c'est très percutant.
Oui, ça résume ce qu'elle a vécu, ça résume... ce qu'on a donné à ces deux sœurs comme bagage. Et
elles ont fait avec. Il y en a une qui a fait différemment.
Et pour autant, voilà, elles n'ont pas eu le même chemin de vie. Il y en a une des deux.
Elles n'ont pas fait les mêmes choix.
Voilà, Esther qui, elle, entre guillemets, a réussi socialement. Elle est intégrée.
Son mari vient de la quitter quand même.
Voilà,
donc,
enfin, bon. Jusqu'à présent, dans la fratrie, c'était celle qui avait réussi, qui avait la maison, pour qui tout allait bien. Et la ratée, c'était l'autre. Donc, c'était Clara. Et donc, cette rencontre, cette nouvelle rencontre des deux sœurs chez l'une des deux, va mettre en place, en fait, des nouvelles perspectives.
Pour l'avenir de Clara.
Pour l'avenir de Clara.
Donc, celle qui était la moins, la plus démunie au niveau de la...
La moins bien dotée au niveau du caractère,
tout à
on va
fait.
Dire. Parce que...
Donc, là aussi, voilà, une nouvelle pleine d'espoir, comme je disais au début de cette émission. Alors, on a peut-être encore le temps pour une petite... de parler encore d'une, c'est celle, j'ai choisi la seconde, qui s'appelle, la seconde du recueil, qui s'appelle « À la nuit, loin du Montana ». Alors, c'est écrit là encore à la première personne du singulier, par une femme encore, mais qui est nommée, qui s'appelle Rachel, et qui rêve du Montana et de servir des tartes aux pommes à un garçon vaché. Alors ça, c'est un rêve extraordinaire, ça. Voilà.
Je pense que c'est le rêve d'une jeune femme, surtout, qui a été abreuvée par des séries américaines.
Oui, voilà, avec les éoliennes.
Qui garde des images comme
tout
ça, qui
fait,
la font
des
rêver.
Images. Mm-hmm. Alors qu'elle est, elle est au fond de son appartement où elle piste les cafards. Donc, effectivement. Alors, elle a une amie qui s'appelle Dottie, et qui croit en elle. Et un jour, donc, Rachel voit et empêche une jeune femme de se suicider sur un parking d'un nouveau club où elle était venue passer la soirée avec son amie Dottie. Et alors, quand elle parle de cette jeune femme qu'elle vient de sauver, elles sont toutes les deux dans la voiture, elle dit « Nous nous taisions ensemble ». Je trouve que c'est une phrase aussi qui est pleine d'images. Nous taisions ensemble.
Mais parce que le partage du silence, je trouve que c'est quelque chose de très actif aussi. Et
oui,
c'est une
autant
forme de communion.
Que, tout à fait. Autant de communication qu'avec des mots et des paroles. Tout à fait.
Oui.
Et puis donc la jeune fille qu'elle a sauvée, eh bien, c'est Amira, avec ses cicatrices, ses éraflures, cette violence retournée contre elle.
Mm-hmm.
Et puis donc Amira et son parfum de santal, son odeur de santal, comme celle du garçon vaché, du rêve de Rachel justement,
oui.
Ça lui rappelle ce rêve. Et puis Amira, la femme scarifiée qui raconte sa mère et toute cette partie de vie, donc elle raconte ça à Rachel. Et là aussi, eh bien, c'est une belle rencontre, Rachel et Amira. C'est là aussi, c'est voilà, on bascule d'un moment très qui va peut-être être fatal pour Amira, et on bascule vers une belle rencontre entre ces deux jeunes femmes.
Oui, mais parce que je pense que de toute façon, la vie est essentiellement faite de rencontres. Donc,
et puis de choses qui peuvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Anna, se retourner, évoluer, changer, faire changer le cours des choses.
Tout à fait, oui.
Alors, a-t-on encore le temps de parler encore de l'heure dite ? L'heure dite, alors bon, merci Edgar à la technique de cette émission, il me dit que nous avons encore 5 minutes, donc dans 5 minutes on va pouvoir parler de l'heure dite, qui est la troisième nouvelle de ce recueil. Alors l'heure dite se passe à Toulouse, et il y même évoqué le canal du Midi et Ramonville. C'est écrit aussi à la première personne du singulier, mais cette fois par un homme qui s'appelle Aurélien, alors qui lui subit un harcèlement au niveau à son travail, et il est victime d'un harcèlement très lourd, et donc c'est son calvaire, hein, il le dit. Il y a aussi l'évocation de l'heure bleue, cette heure entre chien et loup, et puis l'heure bleue pour celles qui connaissent le parfum
de Guerlain.
Et d'ailleurs il dit les femmes qui le portent ont sur elles l'odeur d'un crépuscule. Je trouve que c'est magnifique comme
à l'heure du jeunisme, c'était un clin d'œil qui me plaisait bien aussi.
Ah oui, tout à fait. Alors il est marié à Cécile. Alors, Il a déserté son rêve arboricole parce qu'il voulait vivre dans un arbre, mais en fait il vit avec Cécile dans un appartement dont il dit « la hauteur promet d'impossibles évasions ». Et puis Aurélien est un ingénieur qui doit être joignable et corvéable à tout moment. C'est pour ça que c'est une pression très forte qui s'exerce sur lui, à son travail, un harcèlement. Et il est question aussi d'un stage qu'il fait avec les autres salariés de son entreprise à Châteauroux, dans un manoir, un stage où il va faire de l'airsoft. Et on apprend que là, c'est comme du paintball, mais avec des billes de plastique tirées avec des répliques d'armes.
Oui.
Je ne savais pas du tout. Je connaissais le paintball, mais je ne connaissais pas l'airsoft. Et puis, on parle aussi du père d'Aurélien. Dans cette nouvelle, il nous fait découvrir son père, qui a l'air d'être un sacré personnage, qui est en pleine forme malgré son âge et qui s'exclut lui-même de la catégorie des vieux.
Le père d'Aurélien ne veut pas être vieux. Il est en pleine forme en plus.
Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi. À un moment, il dit « J'avance sur des ciseaux ouverts ». J'aime beaucoup cette image. « J'avance sur des ciseaux ouverts ». Voilà.
Oui, là, il était totalement en souffrance. Et donc, il fallait l'exprimer.
Il l'a exprimé avec cette phrase. Et on visualise très bien. Et puis, donc, comme je disais, la pression du harcèlement est très lourde, trop lourde même. Et la chute de cette nouvelle est, ma foi, assez inattendue et pleine de saveur et même d'odeur, je dirais. Oui. On ne va pas en dire plus. Mais c'est une chute de nouvelles qui est qui fait penser à ce parfum de l'heure dite 11h10, n'est-ce pas, parce que c'est l'heure qui était citée.
Le rapport au temps, de toute façon, est prépondérant, parce que primordial, il a un compte à rebours, ce garçon, cet homme.
C'était vraiment un compte à rebours. Donc et la dernière qu'on n'aura pas le temps d'évoquer, qui s'appelle, je le rappelle, Et le jeudi non plus, qui est une très belle nouvelle aussi, que j'ai beaucoup aimée, mais le temps, là aussi, le temps me rattrape. Mais j'invite vraiment les auditeurs à acheter ce recueil, Le Parapluie Rouge d'Anna de Sandre, publié aux éditions Inuit, et de lire toutes ces 5 nouvelles. Elles sont vraiment, elles sont à savourer. Et puis alors, Anna, d'autres projets d'écriture après ce Parapluie Rouge ?
Oui, donc j'ai un recueil de poésie qui va être publié aux éditions du Carnet du Dessert de Lune en 2015. Et puis là, je suis en train de faire tourner des albums jeunesse et un roman pour adolescents. Voilà, ils sont en présentation chez des éditeurs.
Donc, l'occasion de revenir sur Radio Occitanie, dans Page à Page, pour nous parler donc de vos prochains livres.
Ce sera avec un très grand plaisir.
Eh bien, moi aussi. Pour moi aussi. Merci beaucoup, Anna, de votre présence à Page sur Radio Occitanie. Les chers auditeurs, bonne lecture. Et puis, avant de se quitter, on se quitte sur l'incontournable Frank Sinatra, qui est donc, petit clin d'œil dans la dernière nouvelle de ce recueil, dans la nouvelle Le Parapluie Rouge. Et on a choisi New York, New York. À d'ici,
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you.
in a city that never sleeps. And find I'm a number one, top of the list, king of the hill. Town blues. Oh, melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And anywhere, it's up to you.